Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleurs codes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
Marcelo Bielsa, Hamza, qu'est-ce qui s'est passé avec Bielsa? On a vu passer les petites capsules sur les réseaux sociaux. On l'a vu s'énerver, péter un câble. C'est quoi le contexte de cette conférence de presse? On va l'écouter dans quelques instants, mais explique-nous le contexte.
Bon, sélectionneur de l'Uruguay, déjà Marcelo Bielsa, éliminé en demi-finale par la Colombie. Fin de rencontre, des incidents quand même assez graves en tribune, où on voit même des joueurs uruguayens, notamment Darwin Núñez, monter en tribune pour se battre avec des supporters colombiens, parce que à ce moment-là, on ne sait pas vraiment qui a commencé. Certains disent que ce sont les Colombiens qui étaient certains un peu trop alcoolisés. D'autres disent que les Uruguayens ont mal accepté la défaite. On a eu le son de cloche, mais ce n'est pas très important. Tout ce qui se passe, le plus important en tout cas, c'est qu'il y avait des membres des familles des joueurs notamment qui étaient présents à cet endroit et qui étaient malmenés par les Colombiens, puisque 80-90% du stade était colombien, en l'occurrence du côté de Charlotte, et les joueurs sont montés en tribune pour défendre les leurs tout simplement. On a vu des femmes, des bébés aussi, Darwin Núñez qui faisait un câlin je crois à sa fille. Il y avait d'autres joueurs qui avaient des enfants en bas âge qu'ils ont pu rapatrier récupérer sur la pelouse, et depuis quelques jours on entend des possibles sanctions contre les joueurs, contre Darwin Núñez et tous les Uruguayens qui sont montés en tribune. Et arrive donc cette conférence de presse d'avant-match pour la troisième place Canada-Uruguay, c'était hier.
Tiens, on va écouter un premier extrait justement où Bielsa met un taquet aux États-Unis, au pays qui accueille cette Copa América. On l'écoute.
Estados Unidos, para que usted lo recuerde.
Les États-Unis, rappelez-vous, lorsqu'ils ont senti que leurs intérêts étaient menacés, ils ont créé le FIFA Gate avec le FBI. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils l'ont fait pour leurs intérêts. Mais là, il ne se passe rien. Ils ont fait une conférence de presse pour explicitement mentir. La responsable des terrains et des pelouses, que je connais, je sais très bien ce qu'elle a fait et le mal qu'elle fait, a donné une conférence de presse pour dire qu'il ne s'agissait que d'une gestion visuelle, que Vinicius ne voyait pas bien, que Scaloni n'avait pas à parler. Elle a aussi dit que les pelouses d'entraînement étaient parfaites. J'ai toute une collection de photos qui montrent le contraire. Les terrains sont désunis, en morceaux.
D'ailleurs, on entend dans le ton Bielsa, c'est pas celui qu'on avait l'habitude d'entendre quand il était à Marseille, pour ceux qui se rappellent.
Un peu plus à Lille.
Ouais, c'est vrai, un peu plus à Lille, t'as raison. Non, mais là, en gros, il accuse le pays organisateur de un peu mettre sous le tapis mais c'est pas qu'une histoire de pelouse.
En fait, ce qui se passe, c'est que au tout début de la compétition, notamment le match d'ouverture Argentine-Canada, qui s'était joué à Atlanta dans le stade à 2 milliards de dollars, dès le coup de sifflet final, on a des premières remarques des joueurs, notamment argentins, sur la qualité de la pelouse. On a Dibu Martinez, on a Cuti Romero, je crois, et Scaloni, qui est le sélectionneur argentin, qui justement, lui, est quelqu'un de très calme, qui évite toutes les possibles polémiques, etc. Ils ont tous été à charge et assez véhément contre la qualité de cette pelouse. Dibu, je crois, il avait dit, c'est la pire pelouse de ma carrière. Alors que, justement, dans l'aspect visuel, on a l'impression de voir plutôt une bonne pelouse. Et sur différentes pelouses de cette Copa América, on a eu ces mêmes problématiques pour plusieurs joueurs, plusieurs équipes qui ont réussi la première fois en tout cas à se plaindre. Sauf que depuis justement peut-être le deuxième ou troisième jour de la Copa, on n'entend plus ces problématiques liées à la pelouse. Donc on se dit quoi ? On se dit que bon, bah finalement tout est réglé.
Ouais.
Effectivement, c'était juste le premier match, ouais. Le temps de trouver des petits réglages, etc. Sauf que là, Marcelo Bielsa revient avec ses déclarations. Je sais qu'il y a une autre déclaration dans quelques minutes où on parlera de pression de la Conmebol pour justement empêcher les joueurs de parler. Mais il y a plein de problématiques en fait qui sont liées à cette Copa América, qui sont liées à l'organisation de cette Copa América. Ce qui est assez inquiétant à 2 ans de la Coupe du Monde. Pour revenir sur les pelouses, faut savoir que sur 11 des 14 stades de cette Copa América, ce sont 11 stades de football américain. Donc les grands stades. Il y en a 3 qui étaient dédiés au soccer, sauf que les 3 en l'occurrence ne seront pas à la Coupe du Monde. Ces stades-là de football américain sont plutôt de type un peu plus ovale, parce que justement la configuration d'une pelouse en NFL est différente de la configuration d'une pelouse en foot, notamment au niveau des dimensions. Et il se trouve que sur les dimensions, notamment les dimensions de l'ensemble des terrains de cette Copa América, a été réduite. On est passé de 105 mètres de long et 68 mètres de large avec une zone de dégagement, c'est ce qui est requis par la FIFA, à 100 mètres de long et 64 mètres de large. Ce sont, pour vous donner une idée, les dimensions en Angleterre pour les terrains de U13, pour cette Copa América. Ça, c'est un premier problème, la dimension des pelouses. Ça avait été évoqué par les Brésiliens, par le sélectionneur brésilien, par le sélectionneur Alfaro du Costa Rica, par différents sélectionneurs. Et puis, il y a la deuxième problématique, toujours sur ces stades de NFL, la pelouse synthétique. Interdit, évidemment, pour la Copa América, on doit jouer sur des pelouses naturelles. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis les pelouses naturelles par-dessus le synthétique, seulement deux jours avant le premier match, en l'occurrence, du Argentine-Canada. Sauf qu'en fait, la pelouse, elle n'a pas eu le temps de prendre, d'être enracinée. Eh oui. Et tu le remarques surtout, je crois que c'était sur un deuxième match à New York, c'était le match, je crois, de l'Uruguay face au, je sais plus si c'était face au Panama ou face à la Bolivie. En fait, t'as des rebonds assez, je dirais, atypiques, pour rester assez poli. Et en fait, tu te rends compte que il y a plein de petits détails, ce sont à chaque fois des petits détails, mais qui ont rendu fou pas mal d'acteurs sur cette Copa América. Et à la fin, Marcelo Bielsa a explosé, et là il y a un deuxième son qui va arriver, je pense.
Ouais, on va l'écouter, mais tu penses que il explose là, en fait ce qui le fait déborder, c'est les incidents et le fait que la CONMEBOL ouvre une enquête sur ce match Colombie-Uruguay avec les débordements Darwin Núñez qui montent en
tribune. Parce que lui estime que ce ne sont pas les joueurs qui doivent prendre des sanctions, mais que les joueurs ont été obligés de réagir parce qu'on les a mis dans cette situation-là, dans le sens où effectivement ça a été mal organisé, il n'y avait pas de cordon de sécurité par exemple entre les Colombiens ou les Uruguayens. Et c'est lui estime, et ça a été d'ailleurs repris aujourd'hui, une conférence de presse de Scaloni veille de finale de Copa América avec Dibu Martinez, et Dibu a explicitement apporté son soutien aux joueurs uruguayens et notamment à Darwin Núñez. Et Scaloni, il a d'abord envoyé un message de paix parce que demain il y a une finale Argentine-Colombie à Miami, mais il a aussi dit: à la place des Uruguayens, on aurait probablement agi de la même manière.
Bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est ça qui fait déborder. Et derrière, il a tout balancé, Marcelo Bielsa. Écoutons un deuxième extrait où Bielsa s'énerve à nouveau, justement, sur l'omerta, un peu, autour de cette Copa América.
Eso afecta.
Cela affecte l'organisation. Il ne faut rien dire, sinon ils te menacent. Scaloni a parlé après le premier match. Depuis, ils ont dit: tu as parlé une fois, ne parle plus. Sinon, il faudra en payer les conséquences. Les joueurs n'ont pas le droit de parler. Tous ont été sportivement menacés, comme nous aujourd'hui. Vous allez les suspendre? Mais quelle suspension? Tu devrais plutôt t'excuser auprès d'eux. La seule chose à faire aurait été de dire: nous avons commis toutes ces erreurs, nous en sommes les responsables et nous allons nous charger de rectifier cela. Et l'affaire aurait été clôturée.
Non, c'est mon cargo. C'est terminé.
Vraiment, Hamza, pression, menace
Je ne sais pas s'il y a eu des pressions. Moi, ce que je constate, effectivement, c'est que cette problématique des pelouses n'a pas été évoquée tout au long de cette Copa América. Par contre, on remarque aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Bielsa évoque notamment la sélection de Bolivie qui n'a pas pu s'entraîner correctement. Bielsa, dès l'arrivée des Uruguayens du côté de Miami, chaque sélection a un campus pour justement avoir ses possibilités, ses facilités au niveau des entraînements. Bielsa avait été scandalisé par la pelouse, il voulait changer de centre d'entraînement. La CONMEBOL lui a dit non parce qu'il n'y avait pas de terrain disponible et que les pelouses manifestement étaient pires ailleurs. Donc on arrive dans une situation où les langues effectivement commencent à se délier. Jesse Marsh, le sélectionneur du Canada, juste après Bielsa, a aussi confirmé à demi-mot ce qui a été dit par Bielsa.
Il a dit autre chose quand même, Jesse Marsh.
Oui, il a dit, je suis d'accord avec lui sur une partie, pas sur l'autre partie.
Il a dit aussi qu'il considérait que les États-Unis ou le Canada avaient été quand même traités de façon particulière, notamment sur l'arbitrage. En gros, vous êtes invité à la Copa América, mais bon, la ramenez pas trop. Bah, c'est ce qu'a dit Jesse Marsh.
Ce qu'a dit Jesse Marsh, notamment sur le match États-Unis-Uruguay.
Voilà, il a dit que les États-Unis à domicile se sont fait un peu marcher dessus et ont eu que très peu de fautes, et le Canada aussi, etc. Donc lui, il était quand même pas bon. Nous, on aime bien Marcelo Bielsa, il y a pas de problème. Là où je suis très surpris, même si nous on n'est pas sur place, c'est quand même que les États-Unis, en termes d'infrastructure, que ce soit pour les facs, que ce soit pour les clubs, et alors je te parle même pas du football américain, je te parle du soccer là, les facs et les clubs, et alors le football américain, en ce qui concerne les pelouses notamment des clubs américains, quand même tout le monde nous dit qu'ils ont quand même de très très belles installations et que, alors je ne sais pas dans quelle ville ils étaient, peut-être qu'il y avait deux clubs, enfin deux sélections, il n'y a peut-être pas assez de bonnes installations de très haut niveau pour tout le monde. Et on sait aussi que Marcelo Bielsa, c'est un peu un psychopathe des pelouses, parce qu'on se rappelle que notamment à l'Athletic Bilbao, c'est lui qui des fois allait avec son râteau pour aller remettre les pelouses, etc., et qui n'était pas tout le temps d'accord avec l'organisation. Donc il peut quand même avoir un côté un peu extrême sur ce genre de choses. Maintenant, c'est toujours bien quand il dit ce qu'il pense. Je peux l'entendre s'il n'y avait pas le cordon de sécurité ou si les familles étaient menacées, qu'il soit agacé. Maintenant, c'est quand même assez surprenant parce que les États-Unis, quand même, en termes d'infrastructure sportive, encore une fois, c'est quand même un des pays les mieux dotés au monde. Mais bon.
Ouais, non, mais dans l'imaginaire collectif, t'as raison. Et nous, moi, avant la compétition, je m'étais dit qu'au niveau organisation, on n'aurait pas de problème aux États-Unis.
Manchester, Chelsea, tous les clubs anglais, le Barça, ils font des tournées américaines tous les étés aux États-Unis.
Ouais, après, peut-être que quand tu prends 20 millions ou 10 millions dans ta poche, c'est peut-être plus facile d'accepter certaines choses.
S'il y avait des risques de blessures, si c'était vraiment cataclysmique.
Moi, ce qui m'étonne,
il y a eu des blessures musculaires sur cette Copa América. Advíncula dès le premier match, Lukumi, le défenseur central colombien, dès le premier match, pareil.
Il y a des préparations là des grands clubs. Si c'était si cataclysmique, ils iraient pas quand même tous les ans. Ils sont pas à 10 millions d'euros près non plus.
Je sais pas. Il y a eu des Argentins aussi qui ont parlé. Il y en a d'autres qui ont parlé. Tu vois.
Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est comment à deux jours, en fait, tu mets une pelouse sur du synthétique.
Ouais, ça c'est aussi étrange.
Sur une compétition aussi énorme, alors que tu vas accueillir la Coupe du Monde dans deux ans.
Il y a de quoi être inquiet d'ailleurs, tu penses, Samza, parce que dans deux ans, Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada.
Alors justement, sur les stades, les fameux stades de NFL qui accueilleront la Coupe du Monde, forcément la FIFA a des exigences beaucoup plus élevées manifestement que la CONMEBOL, notamment sur la dimension des pelouses. Bon. Ils vont réaliser sur ces grands stades des travaux, notamment parce qu'on a un problème d'espace, notamment au niveau de la ligne de touche par rapport aux tribunes et sur les coins, notamment pour frapper les corners dans certains stades bien précis. Le nouveau stade à Los Angeles, là, qui a coûté je crois 5 ou 6 milliards. Le MetLife Stadium qui accueillera la finale de la prochaine Coupe du Monde. Il y en a un troisième, je crois c'est à Dallas. Donc il y a des travaux qui vont être réalisés justement pour gommer cette partie. Concernant la qualité des pelouses, je pense que la FIFA exigera quand même et que cette Copa América permet de voir les problématiques. Mais je suis persuadé que la FIFA demandera de récupérer les stades bien avant, de poser le synthétique, de retirer le synthétique pour mettre directement la pelouse naturelle, pour qu'on n'ait pas justement ces problématiques. Mais
et puis
concernant les stades d'entraînement,
on peut faire confiance à la FIFA, c'est carré quoi.
Ouais, voilà c'est ça. Et puis en plus, ouais. Mais oui, la problématique concernant les stades, les pelouses d'entraînement, parce que encore une fois, c'est vrai que c'est Bielsa qui parle et que les autres n'ont pas parlé dans un premier temps. Mais il y a eu certains bruits de la part de certains médias. L'histoire du centre d'entraînement, on le savait avant même le premier match. Tu vois, c'est les journalistes locaux sur place qui ont remonté des choses. Maintenant, effectivement, Bielsa a évoqué beaucoup de choses. Justement, le fait que des journalistes aussi se taisent alors qu'ils savaient l'étendue de la problématique de cette Copa América aux États-Unis au niveau de l'organisation.
Mais est-ce que... c'est pas une histoire d'avoir perdu aussi un peu de frustration ou pas du tout?
Peut-être. Moi, les explications footballistiques.
Il a quand même un ton très agacé.
Ouais, mais les explications footballistiques sur l'intégralité de la conf, il commence par parler foot.
Oui.
Sur les deux premières questions,
on n'est pas sur la conf d'après défaite en demi-finale.
Non,
on est sur la conf d'avant-match du match pour la troisième place.
Donc, il peut continuer et qu'il peut répondre aux questions quand même sur le match.
Oui, mais justement, les questions, l'aspect footballistique, il a répondu en gros d'un seul bloc sur 8-10 minutes sur les problématiques, le fait de préférer jouer à 11 contre 11 et pas 11 contre 10 parce qu'il y a eu 22 minutes de temps de jeu effectif en moins sur la seconde période. Voilà, les aspects footballistiques, il les a évoqués.
Et dans le jeu, il a pris sa part de responsabilité.
Lui estime qu'il y a eu un moment important, c'est la sortie sur blessure de Bentancur en première période. Qu'en seconde période, ils ont eu beaucoup de mal, justement, malgré la supériorité numérique, à faire des différences. Il aurait dû, lui estime, c'est ce qu'il dit là, en conférence de presse, il aurait dû faire entrer peut-être Luis Suarez encore avant. Voilà, après on rentre sur l'aspect footballistique. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de...
On va en dire un mot dans un instant. On a Pedro qui nous appelle au 32-16 qui va réagir en continu sur cette Copa América dans l'after avec Hamza Rahmani qui nous explique tout ça, avec Walid Acharchour et avec Kevin Diaz. À tout de suite sur RMC. Hamza Rahmani là également, il a commenté tous les matchs quasiment de cette Copa América. Merci Bielsa quand même, hein. Sans lui on n'aurait jamais autant parlé de cette Copa América. Je pense qu'entre ses déclarations sur en résumé le foot est mort et les déclarations dont on parle ce soir, son pétage de câble en conférence de presse avant le match pour la troisième place entre l'Uruguay et le Canada. On a déjà expliqué beaucoup de choses et on a Pedro qui nous a appelé au 32-16. Salut Pedro.
Salut à tous. Salut Pedro. Je suis très content que vous parliez un petit peu de la Copa América.
Ah bah ouais, ça fait plaisir. Tu nous appelles d'où, Pedro? Il y a un petit accent en plus, le prénom et tout, c'est magnifique.
Non, mais j'habite en France depuis très longtemps, mais ouais. Je suis uruguayen 100%. Donc, si vous me laissez parler un tout petit peu, je voudrais juste dire un truc.
Bien sûr.
La Colombie, elle a vraiment, vraiment gagné bien ce match. Ce match aurait pu être un match nul. C'est sûr, mais la Colombie a bien fait son truc dans la deuxième mi-temps. Elle s'est repliée, elle l'a très bien défendue et c'est pas le problème. Les Uruguayens, dans leur grande majorité, savent qu'ils ont perdu ce match. Ils ont pas su le gagner à 11 contre 10 et effectivement, il y avait de la frustration. Mais si vous voulez, je vous explique ce qui s'est passé avec Bielsa, exactement le pétage de plomb, le pourquoi de son pétage de plomb.
Alors, on l'a déjà fait beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ce qu'a dit Hamza?
C'est très important, c'est parce qu'un journaliste uruguayen lui a demandé « Est-ce que vous avez peur des sanctions qui vont arriver ?» Et lui, il a considéré que les journalistes uruguayens auraient dû jamais lui poser la question comme ça, mais plutôt se mettre du côté des Uruguayens, car il s'était passé un problème de sécurité extrêmement grave dans le stade. Il n'y avait pas de stadier, il n'y avait pas de police. Et les gens, comme vous l'avez dit, les Uruguayens se sont retrouvés en une minorité énorme, même s'il y a eu des coups de partout. N'empêche qu'il y a eu des enfants, des bébés, des petits, des gens âgés qui ont été attaqués parce qu'il y a eu une grosse bagarre. Et il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de sécurité. Il faut savoir que dans les stades américains, il y a des boissons, c'est-à-dire des boissons alcoolisées. La grande majorité des gens étaient alcoolisés dans les supporters colombiens. Ça, il y a plein de choses qui le démontrent. Donc, ce que Bielsa, il a craqué parce qu'il entend des journalistes uruguayens qui, tout de suite, mettent automatiquement le fait que la Conmebol va sanctionner les joueurs uruguayens. C'est ça qui a fait péter les plombs à Bielsa.
Tu veux dire qu'il pète pas un câble que sur cette enquête ouverte par la Conmebol, mais c'est le fait qu'on lui parle d'abord de cette enquête avant de mettre en avant la responsabilité.
Parce qu'il considère, et moi aussi, et beaucoup de gens aussi, les langues sont en train de se délier, que les journalistes, la grosse majorité des journalistes uruguayens, mais aussi en Argentine c'est encore pire, sont totalement corrompus et payés et à la solde de la Conmebol. En fait, il n'y a pas de vrai journaliste, comme on l'entend, au sens où un journaliste va vérifier une information. C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes, ils touchent de l'argent. Il y a plein de chaînes de YouTube qui sont animées par des pseudo-journalistes. En fait, ils touchent de l'argent pour dire certains trucs. Ça, on le sait. Hein. Un jour, on pourra peut-être faire un débat là-dessus. En Argentine, c'est complètement corrompu. Et en Uruguay, vraisemblablement, aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a fait péter un plomb, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on m'en parle déjà de sanctions. C'est-à-dire que les journalistes étaient au courant qu'il y aurait des sanctions de la Conmebol. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et d'ailleurs, il y a eu d'autres soucis. L'arbitrage aussi a été pointé du doigt dans cette Copa América. Il y a aussi un autre truc, le tableau. Je sais que tu voulais en parler,
oui.
Hamza, le tirage au sort.
L'arbitrage, dans un premier temps, très rapidement, enfin, c'est comme partout. Il y a des matchs avec des arbitres de qualité. Il y en a avec des arbitres moins bons, manifestement. Ouais. Comme il y a des joueurs moins bons, des joueurs qui se ratent. Le tableau qui, je vais être très factuel. Le tirage au sort a offert beaucoup de chance à l'Argentine, puisque l'Argentine s'est retrouvée dans le groupe A et s'est retrouvée loin du Brésil, loin de l'Uruguay, loin de la Colombie et loin des États-Unis. Et le tableau a été fait de telle sorte que l'Argentine ne dispute aucun match face à l'un des quatre gros de ce continent avant la finale, puisque là où sur toutes les compétitions,
a joué deux fois contre le Canada.
Oui, bah justement, ça veut dire que dans toutes les compétitions internationales que j'ai pu voir de ma vie, des compétitions à 16 ou à 32, ce qui permet d'équilibrer un tableau sans de meilleur troisième, etc. T'as les deux premiers qui passent. Lorsque t'arrives en demi-finale, l'intégralité du tableau s'est affrontée. Ce qui veut dire que dans la logique, on aurait dû avoir une demi-finale Argentine-Uruguay ou Argentine-Colombie. Groupe A face à groupe B, en quart de finale, le croisement. Et le vainqueur du groupe A, du premier du groupe A face au deuxième du groupe B, donc le Argentine-Équateur, se retrouvait en demi-finale face au vainqueur du Canada-Venezuela, qui étaient aussi les équipes du groupe A et B. Ce qui veut dire que tu te retrouves dans une situation où, et là, c'est de l'interprétation.
Mais ça, est-ce qu'ils l'ont expliqué?
Parce que non, ils l'ont jamais expliqué.
Alors, attends.
Mais pourquoi veux-tu qu'ils l'ont expliqué?
Moi, mon interprétation, c'est comme, on rejoint, et ça, Platini l'a expliqué après, mais le France 98.
Si on peut pas faire le trois magouilles.
Ouais, exactement.
Oui, mais ça, c'est,
le, tu vois, le tirage au sort où il avait expliqué que l'équipe de France avait été placée.
Mais, mais ça, ça a toujours existé, si tu veux. Ça a toujours existé pour
affronter le Brésil qu'en finale.
Exactement. Si tu termines premier, si le Brésil termine premier, la France première.
Et là,
mais si
là,
la France terminait deuxième, le Brésil et la France allaient s'affronter bien avant.
Et là,
sauf que là, l'Argentine, qui a terminé première ou deuxième, n'affrontait ni le Brésil, ni l'Uruguay, ni la Colombie, ni les États-Unis, qui en l'occurrence se sont fait sortir au premier tour, avant la finale. Et moi, mon interprétation, c'est que du côté des États-Unis, on a aussi compris que pour rentrer dans l'histoire du sport, ben, il faut être associé à l'image des plus grands. Ils l'ont vu avec le Qatar et avec Léo Messi. Léo Messi, à jamais, son image sera aussi associée à celle de cette Coupe du Monde. Et donc, indirectement au Qatar. Donc, les États-Unis ont voulu s'offrir une finale à Miami avec l'Argentine. Donc, on va dire pousser le tableau, libérer le tableau pour les Argentins. Sachant qu'une dernière chose, après je te laisse rebondir Pedro, le stade de Miami, sur les 13 ou 14 stades de la Copa América, c'est seulement le 9e en termes de capacité. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans le plus grand stade ou dans l'un des plus grands stades. Il fait 65 ou 64 000 places, mais on a voulu faire cette finale à Miami. Miami où Léo Messi joue en club, Miami où la Fédération Argentine a construit une sorte de siège social provisoire parce qu'il y avait cette Copa América 2024 et parce qu'il y aura cette prochaine Coupe du Monde. Voilà, c'est mon interprétation, chacun est libre de
s'y C'est ce que beaucoup de gens pensent. En fait, les États-Unis, ils ont fait de l'argent avec l'histoire de Messi. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit la Coupe América que gagne Messi, qui est à Miami. D'ailleurs, l'Argentine a voyagé beaucoup moins que les autres pays.
Oui, ils sont restés sur la côte est.
Il faut voir les kilomètres qu'a fait la Colombie ou l'Uruguay pour dans cette Copa América. L'Argentine n'a quasiment pas fait la moitié des kilomètres et en plus ils vont jouer la finale comme
ça. Et ça, il n'y a eu aucune explication, aucune communication là-dessus.
Il n'y a pas eu de communication.
Mais non, mais tout est opaque, tout est opaque. La Conmebol, c'est une mafia totale. Mais tout est complètement opaque. C'est ça qui est dingue.
On a une belle image tout à l'heure. Justement, à cause des polémiques des pelouses, on a eu Alejandro Dominguez, le président de la Conmebol, qui est venu en short sur la pelouse du stade de Miami avec un petit ballon pour voir s'il y avait des faux rebonds particuliers. Bon, voilà, c'est de la communication.
Magnifique. Tiens, juste un mot du sportif avec cette finale très rapidement. Demain soir, Argentine, Colombie. C'est vrai qu'on a vu très peu les matchs.
Très serré. Franchement, très serré. C'est très compliqué de tirer un
vainqueur. Ils ont un bon joueur côté colombien, James Rodriguez.
James Rodriguez, ouais.
Quel bon joueur.
Il joue, je le connaissais pas trop, là, ça faisait 3 ans, tu sais.
On va aller le chercher, lui.
Diaz Córdoba, meilleur joueur de la Copa. 6 passes D, c'est le meilleur passeur de l'histoire de la Copa sur une seule Copa. Match très équilibré. La Colombie n'a plus perdu depuis 2 ans et demi. Je crois que c'est 28 matchs d'invincibilité désormais. L'Argentine, c'est une équipe qui a toujours ses certitudes, mais qui doit aussi sa place grâce à une tête ratée d'un équatorien Caicedo à la 96e minute du quart de finale. L'Argentine, j'ai l'impression, n'a jamais été vraiment poussée dans ses retranchements et là va vraiment avoir un gros test en face, mais ça reste une équipe d'expérience.
Va jouer à l'extérieur du coup.
Non, je pense que ce sera du 50-50 parce que les Argentins et les Colombiens seront présents à Miami.
Et Maximus qui nous dit dans le chat, demain soir j'annonce 2 pénaltys pour l'Argentine.
Je suis pas certain. Attention aux Colombiens. Franchement, une vraie belle équipe. Okay. La Colombie.
Mais lui parlait plus par rapport à l'arbitrage.
Non. Ouais. Non,
mais par contre, ce que tu évoques quand même par rapport à la compétition, ça pose quand même 2-3 questions sur l'intérêt de la compétition et le fait de la suivre ou non, quoi.
Bah écoute, par contre, il y a un moment à ne pas rater demain, c'est le show de Shakira à la mi-temps.
Exactement.
Et oui, à la mi-temps, une mi-temps qui durera plus que 15 minutes.
Exactement.
Ça veut dire que on a des règles FIFA, même la Conmebol a dans son règlement l'article 135 qui te dit la mi-temps ne peut pas durer plus de 15 minutes, mais finalement, on va avoir pour Shakira un show de 20 ou 25 minutes à la mi-temps. Merci. On refait les règles du foot.
Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus.
Merci Hamza.
C'est une première, on est le 13 juillet, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on a enregistré, c'était pas dans l'after il y a quelques minutes, qui sera aussi dans l'after.
Voilà.
Mais allez écouter le c'était pas dans l'after parce qu'on est rentré. C'est plus loin. Ouais. Vraiment, Walid avait pas un avis particulièrement tranché sur.
Belle idée, tranché.
Hamza, merci beaucoup en tout cas.
Merci pour
tout jusqu'à Shakira.
Voilà, merci à vous.
Merci à Pedro d'avoir été là. Ciao Pedro. Bonne soirée.
Salut,
salut Pedro. Merci Kevin. Merci Walid.
Salut à tous.
Bonne soirée à vous.